Bienvenue sur la Marchaba à Europe Moreau sur Radio Fadjet. Vous écoutez la deuxième émission d'Europe Moreau, découvrant l'Europe au rythme des jeunes. Les idées ne connaissent pas de frontières, d'ailleurs, nous n'en connaissons pas non plus dans notre élan de vous trouver les derniers trends dans les nouvelles technologies. On parlera de littérature aujourd'hui à la foire aux livres en Europe. Côté culture, vous serez gâtés avec le sujet qui retrace l'influence de l'art nouveau à Nancy et en Europe. Tout ça dans quelques minutes, juste après le flash d'info avec Margot.
Bulgarie, l'Europe en vue. En Bulgarie, le candidat pro-européen aux élections présidentielles, Gueorgui Parvanov, a été réélu dimanche 29 novembre. Il a recueilli plus de 80% des voix au second tour contre le candidat ultranationaliste Volen Sidérov. La Bulgarie est située au nord de la Grèce. Elle avait demandé son adhésion à l'Union européenne dès 1995 et rejoindra les 25 au 1er janvier 2007. Gerhard Schröder, superstar. L'ex-chancelier allemand Gerhard Schröder publie cette semaine ses mémoires. Outre Rhin, l'affaire a déclenché une véritable tempête médiatique. Le livre est sorti avec 2 jours d'avance et il s'arrache déjà. Selon la porte-parole de Gerhard Schröder, il s'agit, je cite, de la meilleure campagne de relations publiques depuis la sortie d'Harry Potter. Il y a un an, le sociodémocrate Gerhard Schröder avait perdu les élections face à sa rivale Angela Merkel. Vague de violence à Naples, 12 morts en 10 jours, 7 personnes tuées depuis vendredi soir. La ville de Naples en Italie est depuis une semaine le siège de violents affrontements liés à la Camorra, la mafia locale. L'idée d'envoyer l'armée pour rétablir l'ordre a été envisagée mardi, puis elle a été abandonnée par le président du conseil italien Romano Prodi. Dans tous les cas, un millier de policiers supplémentaires vont être envoyés pour prêter main forte aux 13 500 membres des forces de l'ordre déjà présents sur les lieux. Espagne, élection en Catalogne. Les Catalans votaient mercredi dernier pour élire le nouveau Parlement régional de Catalogne. L'issue de ce vote reste cependant indécise à cause d'un fort taux d'abstention. La Catalogne et sa capitale Barcelone revendiquent de plus en plus vivement un statut d'autonomie par rapport au gouvernement central de Madrid. La Catalogne est la première région industrielle d'Espagne et la deuxième pour le PIB par habitant.
Merci Mago, vous êtes sur Radio Fadjet, c'est Europe Moreux, pour la musique, je passe à Antoine.
Et nous allons écouter Belmont, une chanson du légendaire saxophoniste bulgaro-tsigane Yuri Yukana.
Ah bon? Mais qu'est-ce qu'il a de spécial?
C'est le créateur d'un style de musique qui a été très à la mode dans les années 70, musique traditionnelle bulgare, qui a été interdit par les gouvernements communistes. Mais continuer à la jouer dans les cercles privés représentait une certaine forme de résistance.
On écoute ça tout de suite.
We'll be right back.
C'était Yuri Yukanov avec Belmont. Compromis, dans un instant, vous serez tous sur leur nouveau avec Céline et Sophia. Pour vous, elles ont interrogé Jérôme Perrin, qui travaille au musée de l'école de Nancy.
L'art nouveau, c'est un mouvement artistique qui s'est développé dans l'Europe, dans le monde entier autour de 1900 et qui a pris différentes appellations, différents styles également. Donc c'est vrai qu'a priori, c'est pas forcément facile de le reconnaître du premier coup d'œil si on se promène à Nancy, à Budapest ou encore à Glasgow. C'est vraiment des formes très très différentes. Selon les pays, il y a une sorte de continuité puisque partout on a le terme de jeune, de nouveau, de moderne. Par exemple, en Catalogne, c'est le modernisme. En Allemagne, c'est le Jugendstil. En Norvège, c'est aussi le Jugendstil. À Vienne, c'est le style sécession. Sinon, en Italie, le style liberty également.
Jérôme Perrin, le responsable du réseau Art Nouveau, nous explique comment repérer l'Art Nouveau quand on se promène dans Nancy.
À Nancy, l'Art Nouveau, c'est l'école de Nancy. Et ça s'est beaucoup développé en fait, dans les arts décoratifs, dans les verreries, le mobilier, la céramique, les objets du quotidien. Son inspiration, c'est beaucoup la nature, en fait, la flore, les fleurs, les ombelles, la monnaie du pape, la pomme de pin, qu'on trouve sur beaucoup, beaucoup de maisons à Nancy. Mais c'est vrai qu'au niveau des matériaux utilisés, il y a beaucoup de vitraux, de ferronnerie, de céramique.
Y a-t-il d'autres villes en France où on peut trouver de l'Art Nouveau ?
Il s'est beaucoup développé en fait, dans deux foyers, qui sont Paris et Nancy. Paris, puisque bien évidemment, bon, c'est là où tous les artistes les plus modernes, les plus avant-gardistes de l'époque travaillaient. Et à Nancy également, puisqu'il y a eu la chance d'avoir un moment donné, autour de 1900, un petit peu avant quand même, une grande effervescence au niveau population, au niveau industrie, art également. Et grâce à des gens comme Émile Gallet, Louis Majorel, Eugène Vallin ou encore Jacques Gruber, il y a pu avoir à un moment une sorte d'explosion artistique, esthétique comme ça qui a vu le jour ici à Nancy. Mais sinon, ponctuellement, dans beaucoup de grandes villes en France, on retrouve une brasserie, un hôtel, un café, une maison, une villa, Art Nouveau.
Merci Sophia, merci Céline. Maintenant, un autre break musical présenté par Antoine.
On va écouter Arizona, une chanson de Johnny Yeh and Band, qui est un groupe de musique tzigane originaire de Sofia. Thank you.
On continue avec Céline et Sophia. Elles ont visité les villes européennes partenaires de Nancy dans le network à nouveau. Bon ben, elles n'étaient pas toujours sur place vu nos finances à Radio Fadjet, mais c'est comme si.
C'est un réseau qui s'est développé à l'initiative de Bruxelles. Et puisque Bruxelles est vraiment une des grandes capitales de l'art nouveau. Et Bruxelles, en 1999, souhaitait faire un réseau de coopération, d'entraide et de sauvegarde et de promotion de l'art nouveau. Et ils sont donc allés voir plusieurs partenaires enfin plusieurs villes en Europe, plusieurs institutions, parmi lesquelles Nancy, Glasgow, Vienne, Barcelone. Enfin, il y a à peu près une quinzaine de partenaires différents dans toute l'Europe, donc aussi bien du nord au sud que d'est en ouest.
Quels exemples de villes peut-on citer pour caractériser ce réseau ?
Dans les grandes villes, il y a bien évidemment Bruxelles, hein, qui est à 3h30 de Nancy, qui est vraiment une des grandes capitales de l'art nouveau. Et la caractéristique là-bas, c'est surtout ce qu'on appelle la ligne coup de fouet, qui reprend effectivement le graphisme d'un coup de fouet avec des courbes, des contre-courbes, fameuse courbe qui ne se termine jamais. Et si on va un petit peu plus loin, peut-être plus au sud, une des grandes capitales également qui a beaucoup fait pour son art nouveau depuis les années 1980-90, c'est Barcelone. Et avec l'architecte Gaudi, qui lui a utilisé beaucoup l'inspiration organique, en fait, il a cherché vraiment dans les formes du corps humain, de la plante, des architectures. Enfin, il développait vraiment des architectures assez extraordinaires où il n'y a pas d'équivalent en Europe de ce que lui faisait. Et comme la Sagrada Familia, qui est cette sorte d'église qui est toujours pas finie d'être construite. Ou encore ces fameuses maisons à dos de dragon. Enfin, c'est vraiment une architecture assez extraordinaire. Et c'est vraiment très très monumental, et vraiment la meilleure façon de les voir, de voir l'art nouveau, l'art en général, c'est vraiment d'aller de le voir en vrai, quoi.
Quels sont les éléments d'art nouveau communs à toutes les villes du réseau ?
Pendant très très longtemps, on a essayé de cataloguer l'art nouveau à une forme esthétique qui serait celle du coup de fouet. Et ce serait vraiment dommage de limiter justement l'art nouveau à cette seule forme-là, puisque ça engloberait que 2-3 villes, dont Paris, Bruxelles et Nancy à la rigueur, ou de façon très très peu petite, et ça exclurait Glasgow, Vienne, enfin vraiment des grandes capitales de l'art nouveau. Donc ce qu'on recherche plutôt dans l'art nouveau, c'est le désir de modernité, parce qu'il fait sa définition, c'est le désir de modernité, d'utiliser l'industrie pour que tout le monde ou qu'une majorité ait accès au beau, au quotidien, dans les objets du quotidien, le mobilier, les vases, l'architecture.
À Barcelone, il n'y a pas seulement de l'art nouveau, mais il y a aussi de la bonne musique.
Et on va écouter Bombas, une chanson du sound system catalan Pirat Sound Sistema. Ce sound system est très connu à Barcelone, notamment parce qu'il chante la grande majorité des chansons en catalan.
Bombas, que mai no respecten pobles innocents. Bombas, bombas, bombas. alcohólicos y que son terroristas. El negoci de la guerra es el negoci del mercat, on els amos del món guanyen pasta en assassinat. I aquí sembra l'ojo dit, i aquí en aquest llibre posen els murs de la pistola. I aquí troba el panoholí, i aquí s'enfronten pedres contra milicos i poli. Jo dic bombes, i és el negoci de la guerra. I jo dic bombes, i és el negoci del mercat. Bombes, i és el negoci de la guerra. Les barres i estrelles tacades estan de sang. Bombes, són les que maten la meva gent. Bombes, una bomba no és mai intel·ligent. Bombes, que mai no respecten pobles innocents. Bombes, bombes.
C'était Bombas du Pirate Sound System. Vous écoutez Europe Moreuse sur Radio Fadjet. Ce week-end, c'était la Foire aux Livres en Europe, une petite chronique littéraire avec France et Lara.
En Europe, en ce moment, c'est la grande saison des prix littéraires. Alors cette semaine, il y a eu l'ouverture de la Foire aux Livres à Francfort, en Allemagne. Et nous, à Europe & Roll, on s'est dit que c'était vraiment injuste. Alors nos chroniqueurs culture ont décidé de prendre chacun un auteur européen qu'ils aimaient bien et de nous présenter un de leurs livres. Aujourd'hui avec nous on a Lara et Franz. Lara, qu'est-ce que tu vas nous présenter ?
J'ai choisi Le Parfum, l'histoire d'un meurtrier de Patrick Susskind. Le protagoniste s'appelle Jean-Baptiste Grenouille. Donc comme le nom l'indique, c'est en France que ça se passe, à Paris au XVIIIe siècle. Et Jean-Baptiste Grenouille est une personne obsédée par les odeurs. Il va chercher à créer un parfum absolu, magnifique, qui va faire en sorte qu'il va être aimé par tout le monde. Alors qu'il exclut la société, il va empirer les choses en exécutant plusieurs jeune belle fille pour créer ce magnifique parfum.
D'accord, il y a un film qui est sorti il n'y a pas longtemps adapté de ce livre.
Oui, le mois dernier il est sorti et donc je l'ai vu, il m'a très bien plu et je trouve que c'est une très bonne adaptation du livre. Mais toutefois, je dois dire que le livre est nettement mieux vu les descriptions du sens et du caractère psychologique perturbant du protagoniste. Donc je conseille de d'abord lire le livre.
Et toi, Franz ?
J'ai choisi La Métamorphose de Franz Kafka. Donc La Métamorphose, c'est l'histoire de Gregor Samsa, qui est un employé de banque normal, qui se réveille un matin transformé en insecte, du genre cafard. Et évidemment, cette transformation aura des conséquences assez terribles sur sa vie, puisque il perd toute son humanité à travers ça, et sa famille va petit à petit l'exclure, tout en le faisant subsister quand même. Et assez vite apparaîtra chez lui l'inquiétude de ne pas pouvoir aller justifier auprès de la banque, ce qui donne un côté assez comique finalement à cette histoire très sombre. Et après, libre lecteur de rire ou pas, ça dépend des caractères. En fait, je sais pas s'il y a vraiment une morale à ressortir, mais disons que c'est une histoire qui est intéressante aujourd'hui parce qu'elle est très très actuelle, bien qu'elle ait quasiment un siècle d'existence. Elle est très actuelle puisque aujourd'hui le terme kafkaïen est devenu carrément très utilisé partout. Et il y a beaucoup de situations qui ont des résonances kafkaïennes comme ça, surtout dans l'administration finalement, avec des grosses lourdeurs totalement absurdes, dans les impôts ou bien à la fac de lettres, par exemple, pour ce qui est des inscriptions, des choses comme ça qui sont toujours assez étranges.
On sent que tu as beaucoup souffert.
Oui.
D'accord, alors pour cette semaine, les nominés au prix Europe & Roll de la littérature européenne étaient pour Lara...
Le Parfum de Patrick Susskind.
Et pour Franz ?
La Métamorphose de Franz Kafka.
La Métamorphose de Franz Kafka et Le Parfum de Patrick Susskind que vous pouvez trouver en librairie en France. Bonne lecture !
Passons du verbe écrit à la parole chantée avec Antoine.
Ah non, on va croire que c'est moi qui chante maintenant. Ah non, non, c'est une chanson folklorique bulgare qu'on pourrait traduire par « Le sable de la montagne derrière l'horizon ». Et c'est vraiment une chanson magnifique qui, selon moi, s'écoute les yeux fermés.
cette chanson était vraiment magnifique dans le studio, tout le monde est très ému. Mais on va continuer quand même avec notre nouvelle rubrique, le chiffre de la semaine avec Yann et Marianne.
Le chiffre de la semaine est 424 000.
C'est le nombre de téléphones portables au Luxembourg. Il faut savoir que la population actuelle de ce pays est estimée à 0,4 million. Au Luxembourg, donc, il y a 106 portables pour 100 personnes.
Et en France ?
En France, les chiffres pour 2003 sont de 65% de portables, soit un peu plus de 38 millions d'appareils. La France se place ainsi au dernier rang de l'Europe des 15, juste avant l'Allemagne avec 72 portables pour 100 personnes.
Les Italiens sont réputés pour leur grand amour des portables. Pourtant, on ne les retrouve pas en première place du classement, comment cela se fait-il ?
Si ce sont les Luxembourgeois qui occupent la première place, cela n'empêche pas les Italiens de conquérir la seconde avec 94% de la population ayant un téléphonino, comme ils disent là-bas.
Et par rapport aux États-Unis et au Japon, comment se positionne l'Europe ?
En Europe, 80% de la population possède un téléphone portable, alors que les chiffres pour le Japon et les États-Unis sont respectivement 64% et 49%. Si l'Europe devance ainsi les États-Unis et le Japon, c'est que les pays qui maîtrisent le mieux les technologies mobiles se trouvent en effet en Europe.
Mais on n'a pas toujours eu autant de téléphones portables.
En effet, ces dernières années, l'emploi du téléphone portable s'est intensifié. En 1990, une personne sur 100 en utilisait un. Ce chiffre est passé à environ 78% en 2002 et a atteint 80% en 2003.
À côté des téléphones portables, les ordinateurs deviennent peu à peu des instruments de travail indispensables. Qu'en est-il au niveau européen ?
Le nombre de possesseurs et d'utilisateurs d'ordinateurs personnels en Europe augmente également. Mais contrairement à la téléphonie mobile, les Européens se laissent devancer par les Américains. Ainsi, c'est en Suède qu'il y a le plus de PC, 56% de la population en possède. La Grèce se trouve, elle, en dernière position, avec seulement 9 PC pour 100 personnes.
Pourtant, le recours plus fréquent aux ressources offertes par la toile est l'une des clés de l'enseignement moderne et des nouveaux métiers.
En effet, l'Europe a donc inscrit parmi ses priorités la connexion d'un grand nombre de citoyens dans le plus bref des délais et la formation des écoliers et des travailleurs plus âgés à l'utilisation des outils informatiques.
C'est la fin de cette émission, on se retrouve la semaine prochaine avec encore de l'art et des artistes morts à Verdun. Mais on parlera aussi de comment faire de l'argent et en voyageant et en améliorant son karma. La réponse la semaine prochaine à Europe Moreux sur Radio Fadjet. Écoutez-nous le dimanche à 13h30, lundi à 19h30 et minuit et mardi à 12h30. A plus, Marsalam.